Mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs de Radio Okapi, membres de la presse, bonjour et bienvenue à cette conférence hebdomadaire des Nations Unies. À la une de cette conférence de presse aujourd'hui, la visite en RDC du directeur des opérations de Doutcha, arrivé de New York et qui se rend dans l'est du pays, la réponse de l'OMS à l'épidémie de fièvre jaune en RDC et puis le verdict de la CPI condamnant Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison. Nos invités sont aujourd'hui tout d'abord le général Derrick Bouyessé Le Gwebi, commandant de la force de la MONUSCO, qui participe pour la première fois à cette conférence de presse des Nations Unies. Et puis, nous avons également José Maria Araraz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous présentera donc le rapport mensuel relatif aux violations des droits de l'homme commises au cours du mois de mai. Voilà donc pour l'essentiel des titres de cette conférence de presse que nous commençons tout de suite avec les informations de la police des Nations Unies. À Oicha, le clôture le 21 juin du recyclage en maintien et rétablissement de l'ordre public et des gestes et techniques professionnels d'intervention au profit de 128 cadres et agents dont 6 femmes de la police nationale congolaise, la PNC. Cette formation a débuté le 8 juin sous l'initiative des policiers des Nations Unies UNPOL de la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Beni-Solib dans le cadre du renforcement des capacités de la PNC. Outre les cours assurés par UNPOL, les membres de la section des droits de l'homme de la MONUSCO ont entretenu les stagiaires sur les notions liées aux droits de l'homme. Une équipe composée des policiers des Nations Unies de Kinshasa a dispensé le 17 juin dernier un cours sur le droit de la personne arrêtée à la Direction générale des écoles et des formations de la PNC. 50 officiers de police judiciaire OPJ, dont 2 dames, ont pris part à cette formation axée sur les devoirs des OPJ face à une personne arrêtée et l'importance pour les agents de la force de la police de connaître et de respecter les droits d'une personne arrêtée. Signalons par ailleurs la cérémonie de clôture des sessions de recyclage en police des frontières le 18 juin dernier donc, une formation qui avait débuté le 28 mars dans l'enceinte de l'école de police de Bounia. Selon le chef du bureau par intérim de la MONUSCO, ce recyclage qui a été organisé grâce à la collaboration franche et fructueuse entre la PNC d'une part, la MONUSCO de l'autre et l'OIM permettra d'une part le renforcement des capacités des agents et cadres de la PNC et de la Direction générale des migrations DGM, et d'autre part, de lutter contre les trafics au niveau des frontières qui sont nombreuses vu l'immensité du pays. Voilà, c'est déjà la fin de cette séquence des informations relatives à la MONUSCO. Nous passons tout de suite la parole à l'équipe pays, une équipe pays qui, nous l'espérons, a une information beaucoup plus dense, beaucoup plus diversifiée et abondante. Bonjour Florence, c'est à vous.
Merci Charles, bonjour à tous. Le directeur des opérations d'OCHA, qui est le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, effectue actuellement une visite officielle en République démocratique du Congo. Cette visite vise à aborder particulièrement les questions de protection de la population civile et les défis d'accès humanitaire auxquels les acteurs font face. Ce mercredi, John Jing se trouve sur le site de personnes déplacées internes de Kanaba, dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Ce site, qui héberge déjà plus de 10 800 personnes déplacées internes, continue à enregistrer l'arrivée de nouveaux déplacés, fuyant les activités des groupes armés dans la zone. Outre ses visites sur le terrain, M. Jing a des entretiens avec les officiels congolais pour faire un survol de la situation humanitaire dans le pays. Plusieurs séances de travail sont également prévues à Goma et ici à Kinshasa, avec les acteurs humanitaires, cette fois-ci pour faire le point sur les contraintes de l'action humanitaire en RDC. Le directeur d'OCHA s'entretiendra également avec les bailleurs de fonds pour dégager les implications du récent sommet humanitaire mondial d'Istanbul. La visite du directeur des opérations d'OCHA s'achèvera ce jeudi. Vous le savez, le ministre de la Santé publique a déclaré officiellement ce lundi l'existence de l'épidémie de fièvre jaune dans 3 provinces de la République, celle de Kinshasa, du Congo central et du Congo. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et d'autres partenaires soutiennent la RDC dans cette situation d'urgence sanitaire, notamment pour l'obtention rapide de vaccins anti-amarelle. Près de 2 millions de personnes ont déjà été vaccinées dans 11 zones de santé des provinces de Kinshasa et du Congo central et plus d'un million de doses sont maintenant attendues afin de poursuivre la riposte vaccinale, toujours dans les provinces de Kinshasa mais aussi dans celles du Congo. À la date du 20 juin 2016, on recensait 1106 cas suspects cumulés de fièvre jaune depuis le début de l'année et 75 décès. 18 ans de prison, c'est la peine infligée hier à Jean-Pierre Bemba Gombo par la chambre de première instance numéro 3 de la Cour pénale internationale. La chambre a jugé que les crimes de meurtre, de viol et de pillage étaient d'une grande gravité. La totalité du temps que l'accusé a passé en détention sera déduite de la peine à purger. Pour rappel, le 21 mars dernier, Jean-Pierre Bemba avait été reconnu coupable au-delà de tout doute raisonnable de deux chefs, de crimes contre l'humanité et de 3 chefs de crimes de guerre. Des crimes commis en République centrafricaine en 2002 et en 2003 par un contingent du mouvement de libération du Congo sur lequel M. Bemba, en sa qualité de chef militaire, exerçait une autorité et un contrôle effectif. Et enfin, vous nous aviez posé une question sur les enfants de la rue à Kinshasa la semaine dernière. L'UNICEF nous a transmis des éléments de réponse en rappelant que l'une de ses missions est de renforcer le système de protection étatique chargé du suivi de tous les enfants vulnérables au RDC, y compris donc les enfants de la rue. Les activités de l'UNICEF sont mises en œuvre en partenariat étroit avec les partenaires gouvernementaux et intergouvernementaux, ainsi que la société civile locale et internationale. Selon le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, on estime environ 20 000 le nombre d'enfants de la rue actuellement à Kinshasa, un chiffre en hausse par rapport à 2006, notamment en raison de la précarité de la vie familiale, mais également des accusations de sorcellerie. L'UNICEF souligne l'importance de la recherche de moyens efficaces de prévention du phénomène au lieu de répondre uniquement au moment où les enfants se trouvent déjà dans la rue. Une prévention qui passe par le soutien aux réformes des lois et politiques relatives à l'enfant et à la famille, un plaidoyer pour l'augmentation des crédits alloués aux secteurs sociaux, le renforcement des capacités des assistants sociaux ou encore le soutien des communautés protectrices et des services de prise en charge des enfants. Entre janvier 2013 et décembre 2015 à Kinshasa, ce sont plus de 9000 enfants, dont 30% de filles, qui ont été maintenus dans leurs milieux familiaux grâce à des fonds de l'UNICEF. Quant à la prise en charge des enfants déjà dans la rue, il faut savoir qu'il existe un référencement qui est mis en place avec un solide système d'alerte précoce. Et alors celui-ci identifie les abus contre les enfants et organise pour chaque cas une réponse en collaboration avec les assistants sociaux communaux. Alors plusieurs défis sont à relever pour réduire de manière durable le phénomène des enfants dits de la rue. Ceci comprend notamment l'absence d'une politique nationale de protection de l'enfance et l'UNICEF nous rappelle qu'elle est prête à continuer à collaborer avec le gouvernement congolais pour mieux faire face à ce phénomène ensemble avec tous les partenaires qui sont actifs dans le domaine de la protection de l'enfance.
Voilà, merci donc à Florence pour ce tour d'horizon des informations en provenance d'OCHA, de l'OMS et bien sûr de la CPI que vous avez pu suivre tout à l'heure. Une fois n'est pas coutume, nous avons l'habitude de nous rendre bien sûr à Goma pour écouter le porte-parole militaire, mais nous l'avons aujourd'hui avec nous. Bonjour et bienvenue donc à Kinshasa au lieutenant-colonel Amouzou. Bonjour.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Comment vous trouvez Kinshasa? Bien?
Bien, bien.
Ça change bien. De Goma, je crois. Bien. Bon, en tout cas, on est là pour vous écouter, pour écouter ce tour d'horizon de l'actualité militaire. C'est à vous.
Merci Charles, bonjour à tous. La situation militaire en RDC se présente comme suit. Une accalmie relative a été observée cette semaine dans les provinces de l'Ouest de la République démocratique du Congo. Cependant, certaines provinces de l'Est et surtout le Nord Kivu, l'activisme des groupes armés menés des tensions intercommunautaires demeure intense. Les opérations conjointes Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et MONUSCO, se poursuivent contre tous les groupes armés qui continuent toujours des exactions contre la population civile. Nous, MONUSCO, conformément à notre mandat de protection des civils, ensemble avec nos partenaires FARDC, continuons à travailler ensemble pour renforcer notre coopération et joindre nos efforts pour neutraliser tous les groupes armés dans l'objectif de mettre un terme à leurs actes criminels contre la population civile. Dans la province de Haut-de-Bas-Zoré, l'armée de résistance de Seigneurera continue des exactions contre la population civile. Le 17 juin dernier, des présumés éléments de l'ARA ont attaqué le village de Kalougagou, environ 7 km au sud de Bangadi, et enlevé 6 personnes. Les FADC appuyés par la force de la MONUSCO ont été rapidement projetés dans la localité pour traquer les assaillants. En Ituri, l'environnement sécuritaire a été marqué par l'activisme des groupes armés dans les localités du sud du territoire d'Inuru et celui de Mambasa. Du 17 au 19 juin dernier, des présumés éléments du FRPI ont attaqué et pillé les villages de Kilito, Kikidi, Avegi, Ngogi, tous situés dans la localité d'Aveba. Des unités de FADC appuyées par la force de la MONUSCO ont été projetées dans ces localités pour repousser les assaillants et protéger les populations civiles. Au Nord Kivu, l'activisme récurrent des groupes armés et la poursuite des opérations conjointes FADC-MONUSCO contre ces derniers, ainsi que les violences entre habitants dans le territoire de Walikale, restent au cœur de la situation militaire de la province. À Bouleoussa, en territoire de Walikale, le jeudi 16 juin dernier, des miliciens Maïmaï venus de Lusamambo et de Bikumbirwa ont attaqué un convoi de la MONUSCO qui allait ravitailler des déplacés internes et refusés auprès des FADC dans le territoire de Bouleoussa. Des troupes des FADC et de la MONUSCO qui escortaient le dit convoi ont riposté. Le bilan provisoire fait jusqu'au jour du 16 dernier, 6 miliciens tués, 12 blessés, 4 capturés et de l'armement récupéré. Nos forces ont été déployées à Bouleoussa pour prévenir les attaques contre les populations et faciliter l'accès des humanitaires. La MONUSCO condamne cette attaque et rappelle que dans le cadre de sa mission de protection des populations civiles et la neutralisation de tous les groupes armés, qu'elle a la liberté de mouvement et est aussi autorisée à user de tous ses moyens appropriés pour agir. Elle appelle tous les éléments du groupe armé à se dissocier de leurs leaders et à adhérer au processus de désarmement. Cependant, la MONUSCO appuie les opérations Usalama et Nyamiragira de FADC contre tous les groupes armés dans la province du Nord Kivu. Le 17 juin dernier, la MONUSCO est intervenue contre les objectifs militaires des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR dans les localités de Nyanzale en territoire de Rusuru. L'action de nos forces spéciales au sol est appuyée par ces hélicoptères d'attaque. La MONUSCO est complètement, totalement engagée auprès des FADC dans la neutralisation des groupes armés et appelle les populations civiles à se désolidariser de ces derniers et à collaborer franchement avec les forces de défense et de sécurité congolaises et la MONUSCO afin de mettre un terme à l'activisme de ces groupes armés. Enfin, au sud Kivu, au Tanganyika, l'environnement sécuritaire demeure sous contrôle effectif des forces indigènes et congolaises et ce, en dépit de l'activisme de quelques groupes armés encore actifs. Merci beaucoup.
Voilà, merci donc au colonel Amouzou qui nous faisait donc le panorama de la situation militaire en RDC. Je vous l'annonçais au début de cette conférence de presse, nous avons aujourd'hui deux invités. Tout d'abord le général Ngwebi qui est le commandant de la force de la MONUSCO et bien sûr notre invité qui chaque mois nous rejoint. Il s'agit bien sûr de José Maria Aranaz. Nous allons lui laisser tout d'abord la parole. Il va nous faire le point la situation des violations de droits de l'homme en RDC au cours du mois de mai. José Maria, c'est à vous. Bonjour.
Bonjour Charles, bonjour collègues de la presse. Je serai très bref. La situation du mois de mai que le Bureau conjoint des Nations Unies a documenté était caractérisée par une augmentation des violations des droits de l'homme. On a enregistré 384 violations des droits de l'homme dans le territoire de l'RDC. Les principales auteurs de violations des droits de l'homme étaient les agents étatiques qui ont commis au moins 67% des violations des droits de l'homme. Et ils sont les auteurs d'au moins 17 victimes d'exécutions extrajudiciaires. Parmi les groupes armés, ils ont commis 33% de violations des droits de l'homme. Les FRPI étaient les auteurs principaux des violations des droits de l'homme. Et surtout, le mois de mai était caractérisé par une augmentation radicale des violations des libertés fondamentales en relation avec l'espace démocratique. Le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme a documenté au moins 155 violations de liberté fondamentale, et ça veut dire une restriction importante de l'espace démocratique expérimenté dans les mois de mai. Au moins 30 manifestations ont été interdites ou réprimées par les agents étatiques. Et dans les cours de la lutte contre l'impunité, le bureau conjoint salue les efforts du gouvernement. Au moins 6 membres de l'FRDC, 4 membres de la PNC ont été condamnés. Ça veut dire depuis le début de l'année, 75 membres de l'FRDC et 33 membres de la PNC ont été condamnés pour violation des droits de l'homme. Merci beaucoup, Charles.
Voilà un panorama de la situation, un rapport de la situation des droits de l'homme pour le mois de mai. L'intégralité de ce rapport vous sera remis, bien entendu, à la fin de cette conférence de presse. Et même si José ne l'a pas dit, comme il est de coutume dans ce genre de situation, dans ce genre de rapport, ce rapport est partagé, bien entendu, avec les autorités officielles de la RDC pour qu'ils en prennent conscience ou en tout cas qu'ils en prennent cas et puissent agir dessus. Voilà, nous arrivons donc à notre dernier invité. Il s'agit, je le disais, du lieutenant-général Derrick Bouyessé-Loguebi, qui est donc le commandant de la force de la MONUSCO, qui participe pour la première fois à cette conférence de presse. Quelques mots de présentation avant de lui laisser la parole rapidement. Il a pris fonction en fait le 1er février dernier. Il est sud-africain d'origine. Il a été nommé en réalité par le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, le 29 décembre 2015. Il est diplômé de gestion de défense et en administration des affaires en Afrique du Sud. Il a 35 ans de formation, il a 35 ans d'expérience militaire. Il a été successivement donc commandant des forces spéciales, directeur de la formation et des opérations, chef des opérations conjointes et chef des ressources humaines au sein des forces armées de défense sud-africaine. Il a occupé également le poste de secrétaire militaire au ministère de la Défense, puis commandant de l'infanterie de l'armée sud-africaine. De 2004 à 2006, il a commandé les forces de l'opération des Nations Unies au Burundi. Voici un peu l'homme qui est aujourd'hui avec nous et qui prend donc en main les forces de la MONUSCO. Général, bienvenue, welcome. Avant de commencer la partie questions-réponses, je voudrais vous laisser quelques minutes pour que vous parliez, pour que vous adressiez aux collègues journalistes, c'est vrai de Kinshasa, mais aussi de Goma, qui vous suivent un peu en direct, aussi aux auditeurs de Radio Okapi qui vous suivent en direct. C'est à vous.
Thank you, Charles, and thanks to our friends from the various houses of media who are present here today. I'm honored and privileged to be part of MONUSCO as a force commander. And I'm saying I'm honored and privileged because you've got a big country, a country which has got future, and a country which is expected to play its role in the bigger continent, Africa. Well, MONUSCO... Yes, please.
Bonjour. Bonjour, les amis de la presse, ici à Goma.
Je me sens très honoré d'être ici, très honoré et privilégié de faire partie de la MONUSCO en tant que commandant de force. Aussi très honoré, c'est un privilège pour moi de devoir participer à cette conférence de presse et pour parler de la République démocratique du Congo. Parce que ce grand pays a un avenir, parce que ce grand pays a un rôle très important à jouer dans ce continent africain.
As part of MONUSCO and as a leader and a commander of the force, I'm going to play my role in terms of peace, security and stability in this country, with the intention that at least will assist to create a conducive environment for the government and the people of Democratic Republic of the Congo to take the country forward with regards to development. That's all what I can say. I'll be looking forward to the questions. I thank you. Okay.
En jouant mon rôle au sein de cette grande mission qu'est la MONUSCO, je voudrais que ce rôle se situe beaucoup plus dans le sens de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Mon intention, c'est de créer un environnement qui soit favorable au peuple congolais et au gouvernement congolais pour amener le développement à ce pays. Pour l'instant, je vais m'arrêter là et attendre vos questions.